Arrêt numéro 5. Christophe Gay du Cisalpes et Juliette Arégui du Pôle aménagement du département de la Savoie expliquent le fonctionnement hydrologique et écologique du bras de décharge de la Lesse.
Bon, alors donc, nous, ici, nous sommes sur la prise d'eau du bras de décharge. Le bras de décharge de Savoie Technolac ou de la Lesse, l'objectif de cet ouvrage-là, en fait, c'est de gérer les problématiques d'inondation dans la Lesse à partir de cet endroit-là. À l'époque, dans le cadre des réflexions, il y avait plusieurs options. C'était soit on faisait traditionnellement, on refaisait tout le cours d'eau en regardant, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille le gabarit, on refait les ponts, etc. Mais très très vite, ça s'est avéré comme une situation qui allait être un gouffre financier puisqu'il n'y a pas moins de 7 ponts entre nous et le lac du Bourget. Donc très très vite, une autre solution est venue à l'esprit des aménageurs, c'était de prendre exemple sur ce que la Lesse avait fait en février 90. En février 90, la digue a rompu à cet endroit et c'est l'inondation, une des inondations qui a inondé donc Savoie Technolac. Et donc l'eau a rejoint le lac du Bourget tout naturellement par la plaine en contournant les remblais qui avaient été disposés à la place de la base aérienne. Très vite, il s'est trouvé que cette solution-là avait déjà un intérêt économique puisque on n'avait plus de pont à refaire, on n'avait qu'à en fabriquer un sur la 504, la 1504, et puis faire cet ouvrage pour faire passer la piste cyclable. Et l'autre intérêt collatéral, c'était de créer un corridor, une trame verte, une deuxième qui reliait le lac du Bourget avec la Lesse. C'était une autre connexion du lac à la Lesse. Donc c'est le choix qui a été donc opéré de faire cette dérivation, ce n'est pas un bassin de stockage. Beaucoup pensent qu'on remplit un bassin par là pendant la crue et qu'après l'eau je ne sais pas où elle va. Non, c'est un bypass, c'est-à-dire que l'eau, fois qu'elle est partie ici, ne reviendra jamais dans la Lesse, elle va au lac par un chenal qui est donc tout tracé jusqu'au lac. Donc là j'ai quelques photos que je vais vous faire passer du chantier. Alors le chantier c'est simple, hein, c'est du terrassement. Vous voyez, ça c'est une photo, voilà, ça c'est du terrassement. Donc c'est une pelle qui creuse un chenal sur 2,5 km de long, le bras de décharge fait 2,5 km de long. Voilà. À la fin, ça donne ça, cette espèce de chenal qui serpente au milieu de la plaine, entre deux digues. Vous voyez que la végétation a vachement poussé depuis quand même. Hein. Donc c'est essentiellement des zones humides, des blaches, et donc on a toute une série de mares pédagogiques qui aujourd'hui sont encore utilisées, notamment par le Cisalpes, dans le cadre de ses ateliers pédagogiques pour expliquer aux enfants la vie aquatique. Alors la dernière fois où il a fonctionné, et il a bien fonctionné, et je pense qu'il a évité pas mal de dégâts, c'était en janvier 2018. Le 4 janvier 2018, on avait 200 mètres cubes donc dans la Lesse, que je vous disais tout à l'heure au niveau du déversoir. Et le bras de décharge a absorbé 100 mètres cubes, et la Lesse 100 mètres cubes. Et malgré tout, on a quand même eu 40 mètres de digues qui se sont effondrées derrière la pépinière Millet là-bas. Et donc on est bien content de n'avoir eu que 100 mètres cubes. Parce que s'il y avait eu 200 mètres cubes dans l'historique de la Lesse, il y a fort à parier qu'on aurait eu plus que 30 mètres linéaires de digues à refaire.
Mais là, c'est tout maçonné jusqu'au là ?
Non. Ah non, c'est que de la terre. Ah non, mais là, on fait 20 mètres, il n'y a plus de béton. Hein. Oui, mais chenal dans la topographie.
Ah ok, d'accord.
Mais sinon, ce n'est que de la terre. Hein. Que de la terre, des zones humides, des marécages. Deux, trois éléments techniques sur l'ouvrage. Donc l'ouvrage, il a été dimensionné pour la crue centennale. La crue centennale, au point où nous nous trouvons, c'est 370 mètres cubes seconde, estimé. Vous avez la notion des 370 mètres cubes seconde ?
Ça doit remuer.
Voilà, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. D'accord ? C'est 370 fois une cuve de 1000 litres à la seconde. Ça fait 370, si je ne dis pas d'erreur, millions de bouteilles d'un litre d'eau. Chaque seconde qui passe. C'est énorme. Hein ?
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Beaucoup d'eau. Comment l'ouvrage a été dimensionné, en fait ? Les hydrauliciens ont pris la section maximale à l'aval. Quel était le débit maximum ? Il s'est trouvé que c'était 240 mètres cubes seconde. Du coup, il manquait 130 mètres cubes seconde. Il prend 130 mètres cubes seconde. Clapet baissé. Alors, le mode de fonctionnement, l'ouvrage est facile et simple en fin de compte. Vous avez, les clapets sont levés là. Donc, normalement, jusqu'à la crue du retour, un an et demi, deux ans, l'eau reste dans la Lesse. L'eau ne va pas dans le bras de décharge. Au-delà, l'eau commence à surverser au-dessus des clapets. Donc, c'est par débordement. C'est-à-dire que l'eau, elle continue à couler dans l'axe principal. Et on a une surverse qui s'opère latéralement dans le bras de décharge. Et ce, jusqu'à la crue de temps retour 40 ans, 240 mètres cubes seconde dans la Lesse. Et oui, parce que 240 mètres cubes seconde, après en bas, ça passe plus au-delà. Donc au fur et à mesure que le débit va augmenter dans la Lesse, Là, sous le tas d'herbes, là, vous avez un puits, il y avait une sonde qui est connectée au niveau de la laisse. Il y a un automate qui est dans le pilier central. Et lui, l'automate, il fait la balance en permanence, il regarde le débit dans la laisse, la hauteur. Et en fonction, si ça continue à monter au-delà du débit capable en bas, les clapets s'abaissent pour augmenter la débitance en bras de décharge. Et dès que le débit redescend dans la laisse, les clapets se relèvent pour venir laisser... Le but, c'était de laisser un maximum d'eau dans le lit historique de la laisse.
Et en général, la gestion du bras de décharge...
Alors après, l'entretien des milieux, elle, c'est autre chose. Elle se fait... Donc maintenant, on a un plan de gestion qui a été établi par le SEN avec des roulements par tronçon. Et justement, pour essayer d'avoir toujours des zones où la faune est préservée et pour ne pas aller tout mettre à blanc chaque année, quoi. Le but, c'est d'essayer de... Par contre, on est obligé quand même d'intervenir très régulièrement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur la base d'un ouvrage hydraulique. Donc si on ne faisait plus l'entretien, qu'on laisse les arbres pousser là-bas dedans, etc., pour le coup, on ne peut plus garantir le fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Donc le but, c'est pas de faire, là pour le coup, c'est pas de laisser une aulnaie comme tout à l'heure se développer. Il faut quand même qu'on reste avec quelque chose qui sera suffisamment flexible à la crue pour se coucher et laisser bien passer les 130 m³/s. Voilà.
Ok, donc moi je me présente, je suis Juliette Arrigui, je suis responsable du service espace naturel biodiversité du département de la Savoie. Et du coup là je viens vous parler alors d'actions qui ne sont pas encore mises en œuvre, mais d'une étude qu'on conduit avec le Seine-Savoie sur le corridor Sud-Lac. Donc c'est un corridor écologique qu'on appelle d'importance régionale. C'est-à-dire qu'il relie deux zones biogéographiques qui sont ici le Jura et de l'autre côté les Alpes. Et ça, ça permet, c'est un grand continuum écologique qui permet la circulation notamment des espèces. Il faut vous dire qu'entre les Alpes et le Jura, le lac du Bourget, c'est une barrière naturelle infranchissable pour les espèces. Donc ça veut dire que des corridors d'importance régionale sur ce territoire-là, il y en a au nord du lac du Bourget, en Chautagne, et il en reste un ici, entre les deux agglomérations d'Aix et de Chambéry. En termes d'espèces vraiment emblématiques, grande faune de ce corridor, c'est le lynx. Le lynx, il descend du Jura et des Vosges. Il arrive assez bien à descendre en Chartreuse par le biais de l'Épine. C'est plus difficile de reconquérir les Alpes. Une des notions qui est importante en termes de corridor à comprendre, c'est qu'on imagine toujours, en gros, là je vous ai parlé du lynx, on imagine la grande faune. Voilà, des cerfs qui traversent d'un massif à l'autre. Ça sert à définir des grandes, on va dire des grands continuums, mais c'est pas en réalité les espèces cibles qu'on a, parce que c'est des espèces qui en termes de population vont plutôt bien et qui sont assez plastiques, qui s'adaptent, qui se déplacent assez facilement. Les espèces pour lesquelles on travaille, c'est essentiellement les plus petites espèces, la moyenne voire petite faune et puis la faune amphibie. Ici, par exemple, on va être sur le renard, le blaireau, les écureuils, le lièvre, ce genre de choses, les fouines. Il va y avoir le castor en faune amphibie. Et ça, c'est des espèces qui ont une aire vitale qui est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire qu'un blaireau, son aire vitale, au maximum, c'est 2 à 4 km. Ça veut dire que lui, il ne va pas aller des Alpes jusqu'au Jura. Lui, il va vivre dans des petits espaces au sein de ce corridor écologique. Ça veut dire que quand on raisonne sur la restauration écologique du corridor, il y a un enjeu un peu de continuité, c'est-à-dire il y a des obstacles qui sont l'autoroute, la voie ferrée, les routes départementales, des clôtures. Mais l'autre enjeu, ça va être la fonctionnalité des milieux naturels qui sont dans le corridor. Et c'est nécessaire d'avoir des milieux naturels qui sont en bon état au sein du corridor, parce qu'en réalité, c'est là que se trouvent les espèces, c'est là que ça va être déterminant pour les espèces en termes de cycle de vie et de survie. Pour avoir un corridor fonctionnel, eh ben, il faut qu'on restaure toutes ces petites continuités entre ces petites zones naturelles. Là, on voit par exemple le bras de décharge qui fait office, lui, de continuité écologique, soit terrestre, soit aquatique. Et il va falloir venir travailler sur tous ces petits patchs pour que, en réalité, on ait un corridor qui soit complètement fonctionnel. Comment est-ce qu'on travaille ? On va travailler différemment selon les groupes d'espèces, parce que les obstacles ne sont pas les mêmes selon les espèces qu'on considère. La clôture de l'aéroport, elle est complètement, quasiment imperméable pour des grandes espèces. Les sangliers, parfois, ils arrivent à gratter un peu sous la clôture, mais globalement, ils ne passent pas. En revanche, elle est complètement perméable pour des petites espèces, des micro-mammifères, tout ce qui va être autour de la famille des souris, des rats, des mulots. Et donc, pour eux, la clôture, ce n'est pas un obstacle. Eux, ce qui va être important, c'est la qualité de la prairie dans l'aéroport pour leur survie. Inversement, il y a des obstacles qui sont... pas grand chose pour un cerf, mettons un muret, voilà, un muret ça c'est facile, un chevreuil ça le passe. En revanche, pour un amphibien, c'est une barrière infranchissable. Donc ça veut dire que quand on conçoit des opérations de restauration, il faut avoir en tête ces différentes guildes d'espèces. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi réfléchir en termes de faune potentielle. Une des conclusions du diagnostic qu'on a fait ici sur ce secteur, on a essayé de collecter des données par différents moyens. On a mis des pièges photos sur des ouvrages. Le Conservatoire d'espaces naturels a fait une enquête participative pour recenser les collisions en abord de routes ou les endroits où des personnes avaient vu des espèces. Et l'ensemble de ces données collectées, elles font quand même ressortir que sur ce secteur-là, on a... probablement des populations de faune qui sont en deçà de la capacité d'accueil des milieux naturels. Et ça, c'est dû au fait qu'on est sur un corridor qui est très fragmenté et que quelque part, les espèces ne sont plus là. Ça veut dire que nous, quand on va réfléchir en termes de restauration, on va réfléchir sur les populations actuelles et on va aussi réfléchir sur les espèces cibles, c'est-à-dire des espèces qui, par exemple, sont aujourd'hui plus là, enfin qu'on n'a plus constaté, mais qui, si les milieux naturels étaient restaurés et connectés, pourraient revenir. Exemple ici, le putois. Une fois qu'on a abordé un peu toutes ces questions théoriques, qu'est-ce que je peux vous dire de l'état actuel du corridor écologique du sud du lac ? Pas mal de pression. C'est un corridor qui est très paradoxal, parce que vous avez des milieux qui sont en très bon état et qui sont par ailleurs un petit peu des pépites en termes de biodiversité. Vous avez l'arrêté de protection de biotope par là-haut. Vous avez des zones humides qui sont en gestion conservatoire par le Seine. De l'autre côté, sur les coteaux des Bauches, c'est pareil. Donc des milieux assez, assez riches, y compris par exemple les prairies de l'aéroport, qui sont en fait des prairies naturelles. Et ça, c'est rare en plaine aujourd'hui. Il n'y a pas d'apport et donc on est sur des prairies... plutôt intéressante d'un point de vue de biodiversité. À côté de ça, on est quand même sur un territoire où, bon, là, je vous fais pas de dessin, la plaine agricole qui est ici, elle est quand même assez pauvre en infrastructures agroécologiques, donc des haies, des arbres isolés, des bosquets, ce qui permet aux animaux de se déplacer. Et puis, très clairement, et ça se voit, en fait, on a énormément d'infrastructures qui fragmentent le territoire. Vous avez l'autoroute, la 41, ensuite il y a la voie ferrée, ensuite il y a une ou deux, notamment une route à grande circulation du département de la Savoie, ensuite l'aéroport, je vous ai dit, qui était en partie clôturé, ensuite on a Technolac, on retrouve deux routes départementales. Donc nous, on a demandé à un bureau d'études de travailler en particulier sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce triangle de routes départementales pour pouvoir reconnecter entre les milieux naturels. Je peux vous donner des exemples d'actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc il y a l'option, on fait un passage à faune, mais vu le gabarit de faune qu'on vise ici, on peut se contenter quelque part de faire en gros une buse sous la route, une buse qui fait un mètre de haut, et ça, ce sera suffisant pour faire passer la moyenne faune. Une autre option qui existe, ça peut être d'aménager des ouvrages existants. Pour permettre à la faune de passer, on peut rajouter ce qu'on appelle des pieds secs, des banquettes pieds secs. C'est-à-dire qu'on va recréer là le long du mur une petite banquette à pied avec, qu'on va, avec un sol en terre, terre végétale. Et ça, ça permet à la faune terrestre de passer l'ouvrage, par exemple. Un autre type d'action qui peut être mis en place, on peut choisir de planter des haies. C'est notamment ce que fait beaucoup la commune de La Motte. Ça permet de guider la faune parce qu'elle va préférentiellement longer ces espaces boisés. Et ça permet de la guider soit jusqu'à un passage déjà existant, soit jusqu'à un secteur où le risque de collision avec les automobilistes est moindre. Voilà, ça c'est des exemples d'actions qu'on peut mettre. Après, des choses un peu plus, encore un peu moins ambitieuses, mais qui ont toujours de l'utilité. Ça peut être ce qu'on appelle des détecteurs à faune. C'est des panneaux lumineux qui clignotent sur la route lorsque une espèce est détectée et qu'elle va traverser. C'est un certain nombre de paramètres qu'il faut qu'on ait collectivement en tête de façon à ce qu'on arrive à gérer au mieux et la problématique du risque d'inondation et la problématique de l'aménagement de sa voie technolac. Et nous, en plus, qu'on positionne nos éventuels ouvrages ou améliorations d'ouvrages pour préserver au maximum le corridor.